Ouh, je viens de dire à Alex, j'ai même pas le temps de respirer, là. Wow, faut vraiment être en forme pour faire cette émission-là, parce que je te dis, là, les pauses de 2 minutes, j'ai même pas le temps de mettre les écouteurs comme du monde, là. Hey, mais on est de retour, puis je suis content de l'être, là. Et en fin de semaine, on a vu les matchs des recrues des Canadiens. Honnêtement, c'est toute une initiative, hein, parce que il y a eu 21 000 qui ont assisté à ce match-là samedi après-midi, puis 21 000 qui ont assisté à ce match-là dimanche après-midi, puis le Canadien a amassé des fonds qui allaient aller à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, là.
Ouais.
Puis ils ont reculté, amassé des centaines de milliers de dollars à cause de ça, donc vraiment... C'est beau pour les recrues qu'eux autres, tu sais, ils ont la chance de jouer devant 21 000 personnes.
C'est le rêve, Tony.
Puis bon pour les Canadiens qui sont en train d'amasser des centaines de milliers de dollars pour la fondation
pour l'enfance.
Là. Donc tout le monde a gagné. Les recrues des Canadiens ont perdu les deux matchs, mais je pense que tout le monde a gagné. Moi, je gagne tous les lundis et les vendredis avec Éric Bélanger de La Poche Bleue. Salut, Éric.
Salut, les gars.
Éric, premièrement, merci de déplacer ton horaire d'un peu pour faire place à Zach Foucalé. On va parler d'Ivan Demidov un peu plus tard, mais Éric, tu sais qu'est-ce qui me vient en tête aujourd'hui pour débuter, là? La semaine passée, moi, je t'ai parlé de Lane Hudson, hein?
Mm-hmm.
Et toi, tu l'as comparé à qui?
À Quint Hughes.
Et moi, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi, right?
Oui. Mm-hmm.
Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki.
Yeah, there's obviously a couple D that I'm sure he looks up to. You know, he reminds me a lot of Quinn Hughes, just the way he skates, walks the blue line. Obviously, Quinn's an amazing player, and I'm sure Lane wants to be something like him. So, you know, it's impressive. You know, he makes a lot of really nice plays. He's the ice really well. So, you know, we'll see how he does at camp.
Le voilà. Nick Suzuki qui dit « Lane Hudson me fait penser beaucoup à Quinn Hughes ». Quand ça vient du capitaine, là, je pense que on peut être content de notre prédiction, hein, de notre comparable. Hein?
On n'est pas si fous, Tony, on connaît un peu ça.
Moi, je suis pas juste un Belfast, là. Quand je dis au monde, je suis pas juste un Belfast. Là. Vas-y, Eric, mais qu'est-ce que t'en penses de Nick Suzuki, qu'est-ce qu'il vient de dire, là?
Ben écoute, les joueurs se connaissent dans la Ligue nationale, puis tu sais, des fois c'est difficile ou c'est pas juste tout le temps d'essayer de comparer un joueur, mais c'est le fun d'être capable de le faire, puis je pense qu'on a visé juste là-dedans. Je pense que Lane Hudson va être Lane Hudson, mais oui, si on compare les deux joueurs, ils se ressemblent beaucoup. Je l'ai regardé en fin de semaine, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que Lane Hudson va commencer la saison à Montréal. Tu voyais vraiment que c'était le meilleur joueur du Canadien. Il a pris le match en main, il a fait des choses, il a fait des jeux, il a pris des mises en échec, il a été bon dans toutes les situations. Moi, j'aime ce que je vois de lui. Oui, c'est un match des recrues, puis c'est pas des joueurs de la Ligue nationale, mais ce qu'il est capable de faire à la ligne bleue, la confiance qu'il a, d'avoir la patience de battre les joueurs à un contre un, le mot va se passer vite dans la Ligue nationale. Ben, lorsqu'on va aller directement à lui, à la Ligue bleue, il va falloir faire attention. Il va en faire des erreurs, il va faire des revirements. Mais moi, j'adore ce joueur-là, puis je suis persuadé qu'il commence l'année à Montréal.
Je l'ai aimé moi aussi. Là, tu vois, Eric, hein, qui mm-hmm. veut la rondelle. Hein. Il la veut, la rondelle. Il y en a plusieurs qui parlent, mais son jeu sans la rondelle, oui, je comprends si tu as des inquiétudes du côté-là, mais il a toujours la rondelle, lui.
Il y a la rondelle, puis il se met en position pour l'avoir. C'est lecture de jeu. Quand il n'y a pas la rondelle, il est capable d'anticiper un ou deux jeux en avance où ce que le jeu va se former, où ce que la rondelle va aller. Quand il y a la rondelle dans sa zone défensive, il ne se débarrasse pas de la rondelle. Il essaie de faire un jeu. Est-ce que les jeux vont toujours être parfaits? Non, parce que c'est un joueur qui va jouer avec une haute habileté, puis il va en faire des jeux risqués, mais ces jeux-là marchent 95% du temps à date de ce que je vois de lui. Il fait des jeux, il voit des choses avant que le jeu se passe. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Oui, côté physique, il va se faire des fois abuser certainement, puis ça va être plus difficile certains soirs. Mais les points positifs, puis tous les jeux et les choses offensives qu'il va être capable d'amener, si on l'entoure bien, moi, je pense qu'il va jouer avec un gars comme David Savard, ou est-ce que c'est un grand frère qui va être bon défensivement avec lui, ou est-ce que Lane Hudson va être capable de s'exprimer offensivement. Moi, j'ai pas de problème avec lui du tout.
Je vais mettre mon petit grain de sel là-dedans, les gars. J'ai adoré, je viens de dire, là, j'ai adoré ce que j'ai vu de Lane Hudson ce week-end.
Oui.
Il y a une chose, par contre.
Oui.
J'adore quand il danse sur la ligne bleue, mais la prise de décision finale. Oui, ça crée des jeux, mais il y a certains moments où je trouve que la décision est mauvaise. Je trouve que c'est peut-être une des choses que Hutton a le plus à travailler. C'est, il va être capable de jouer un ou deux joueurs près de la ligne bleue, mais le moment où il redistribue la rondelle, c'est peut-être pas au bon endroit, puis ça a causé quelques revirements dans le week-end.
Ben ça, c'est sûr, puis j'en ai parlé. Ça, je dis, les joueurs de la Ligue nationale vont s'ajuster, ils sont meilleurs en partant, ils ont plus d'expérience, donc ils en ont vu des choses comme ça. Au lieu de faire peut-être deux, trois feintes de plus, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'ils apprennent. Après avoir battu le premier joueur, je pense que c'est là qu'il va falloir que sa décision soit un petit peu plus rapide à prendre. Envoyer la rondelle au filet ou l'envoyer à un endroit où un coéquipier peut la récupérer. Mais moi j'ai pas de problème avec ça. Tu veux pas enlever la créativité d'un joueur comme ça. Il va falloir que tu vives avec ces revirements parce que comment je pourrais dire ça? Le positif que ça va amener du côté offensif, il est beaucoup plus grand que le négatif avec ses revirements. Puis ça fait partie de l'expérience. Il est encore jeune. Même lui, il va l'apprendre que jour après jour dans la Ligue nationale, tu peux pas commencer à déjouer 3-4 gars puis essayer de faire les jeux tout seul. Ça marche pas dans la Ligue nationale de faire ça tous les soirs. Donc oui, il va l'apprendre, mais moi, je suis prêt à vivre avec le risque et le reward qu'il rapporte.
Et moi, je suis prêt à vivre avec aussi parce que
Oui. Tu
vois trop souvent, puis je comprends ton point, Alex, mais on ne peut pas commencer à lui enlever qu'est-ce qui fait de lui un joueur spécial.
Absolument pas. Donc, très d'accord avec toi.
Il faut faire vraiment attention parce que si on commence à dire, mais là, il prend trop de décisions, ces choses-là, des fois, c'est des mauvaises décisions, là, ça veut dire qu'il va changer son jeu. Moi, je ne veux pas qu'il change son jeu. Moi, je veux qu'il reste le joueur spécial. C'est sûr qu'à un moment donné, on va essayer de modifier des choses comme on l'a fait avec Cole Caulfield. Comprends-tu?
Ouais,
on va le faire avec lui aussi. Mais moi, je veux qu'il prenne les chances parce que, un, il peut créer. Puis deux, c'est ça qui fait de lui un joueur spécial. T'sais. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu de Mayhew, Éric?
Ben Mayhew, moi, j'ai aimé son match. Moi, je pense que Hutton et Mayhew sont pas des joueurs pareils. Moi, je pense que Hutton, il a plus d'habileté offensive. Moi, j'ai aimé Mayhew. J'ai aimé son gap défensif. J'ai aimé ses prises de décision lorsqu'il s'est porté à l'attaque. Lorsqu'il a marqué son but, il était à la bonne place. J'ai aimé son côté physique. Moi, j'ai trouvé qu'il a amélioré son coup de patin. Je pense qu'il est beaucoup plus explosif. Il a une shape d'un gars de la Ligue nationale. C'est un gros défenseur. Il a été bon dans sa zone. Moi, j'ai beaucoup aimé Mayhew. Moi, je pense qu'il va se battre pour un poste en partant à Montréal. Moi, j'ai l'impression que le Canadien va commencer l'année à 8 défenseurs. Je ne serais pas surpris qu'on commence. Oui, j'ai l'impression que les Struble, Mayhew pourrait peut-être commencer l'année. On a Barron, 7 à 8 défenseurs, mais je ne serais pas surpris. Donc, c'est des beaux problèmes à avoir.
Engstrom, parce qu'on va parler des jeunes défenseurs. Là. Écoute, moi, je vais te le dire. Là. Moi, le gars qui m'a impressionné le plus en fin de semaine, c'est Hutton. Moi, le gars qui m'a impressionné le plus après lui, à la défense, on parle toujours des défenseurs, c'était Mayhew. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Engstrom aussi. Mais je dois te dire, là, puis écoute, là, partez pas en peur, là, c'est pas, je critique personne. Là. C'est deux matchs au camp des recrues, là, ça changerait pas grand-chose, c'est pas la fin du monde. Mais je dois dire, de tous les défenseurs, Ryan Backer, moi, il était quatrième sur ma liste.
Ouais.
Éric?
D'accord. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai adoré Engstrom. Je l'avais pas vu jouer, donc j'avais une vision différente de peut-être certains gens où je partais avec une carte blanche pour lui. Et après, Hutton, moi, c'est lui. Parce que Mayhew, je le connaissais. Il m'a beaucoup impressionné, Engstrom. Il est confiant avec la rondelle. Il est capable de faire des jeux. Il se porte à l'attaque. Il a marqué un beau but. Donc, moi, là, j'ai hâte de le voir dans le camp d'entraînement avec des joueurs de la Ligue nationale, dans des matchs hors concours. Moi, je pense que ça va être un défenseur qu'il va falloir surveiller dans le futur. Il a la capacité de jouer dans la Ligue nationale, ce joueur-là, s'il continue de se développer. Mais oui, moi, je l'ai mis en avant de Randbacher. Randbacher, j'ai aimé ce que j'ai vu. Gros défenseur avec un bon bâton, un bon gap. Il fait des bonnes premières passes. Il n'est pas flashy, mais il est toujours bien placé. Je pense que Randbacher va être un très, très bon défenseur dans la Ligue nationale.
Parmi tous les attaquants, il y en a un qui m'a impressionné un peu plus. On va en parler, on va prendre une petite pause. Et au retour, on continue avec Éric Bélanger de la Poche Bleue, tous les lundis et vendredis, ici à BPM Sport. Oui, Éric?
Je pense qu'on a une nouvelle. Je viens d'avoir quoi passer que Sidney Crosby aurait signé un contrat de 2 ans.
Ah
oui?
8,7 millions.
On va fouiller pour ça.
Ouais, vous fouillerez, on en reparlera après la pause, mais je viens d'avoir un breaking news sur mon téléphone. Okay. Sidney Crosby 2 ans à 8,7 millions, ça a l'air.
Vous OK, vérifier. Oui, c'est exactement ça. Même là, oui, les Penguins de Pittsburgh l'ont annoncé. The captain is committed. Crosby, contrat de 2 ans, 8,7 millions. On s'en souvient que l'ancien contrat de Sidney Crosby était toujours, il était aussi 8,7 millions. Le 8,7 pour le numéro 87, mm-hmm. évidemment. Et Crosby, qui avait pris vraiment, il aurait pu aller chercher plus d'argent dans le passé, Crosby. Et moi, je suis convaincu qu'il aurait pu aller chercher plus d'argent même encore une fois oui. s'il aurait été agent libre. Mais Crosby, les Penguins ont pris la décision que Sidney Crosby était repêché. Il a commencé sa carrière avec les Penguins et il va la finir avec les Penguins. On en parle au retour après la pause à BPM Sport. Le voilà, il est 11h44 à BPM Sport avec Éric Bélanger de La Poche Bleue tous les lundis et tous les vendredis. Éric, de tous les attaquants que tu as vus en fin de semaine, lequel t'a impressionné le plus? Lequel penses-tu qui est le plus proche de la Ligue nationale de hockey?
J'ai vraiment regardé les défenseurs parce que c'est eux qui ont sorti du lot le plus possible. Hanneman a été bon. Je pense qu'il a été bon. Thorpe m'a surpris. Je ne le connaissais pas du tout. Je pense que pour un gros bonhomme, il a des habiletés intéressantes. Il a marqué un beau but hier côté du revers. Messard, OK, il y a eu des bons flashs hier. Toc, moi, je l'ai trouvé très ordinaire. Écoute, il n'y a pas vraiment personne qui a sorti du lot, à mon avis, à part Hanneman, là, qui est probablement le plus proche de la Ligue nationale, à mon avis.
Hey, je vais te dire quelque chose, là. Thorpe, là, gars de 6 pieds 4, 210 livres, là, c'est un choix de cinquième ronde, mais tu sais, comme tu sais, Éric, à tous les ans, là, tu vas voir, là, tu vas voir des gars qui sortent de la cinquième ronde. Là, il va toujours en avoir qui vont te surprendre. T'sais? Des gens de Brendan Gallagher ou des Joshua Roy, c'est des joueurs différents, évidemment. Là. Mais Thorpe, là, il pourrait vraiment avoir l'identité pour un bon joueur de quatrième trio. Là, à un moment donné, avec son gabarit, moi, il m'a surpris. Je l'ai trouvé très intéressant. Mais je vais être en désaccord avec toi sur une chose. Moi, je pense que l'attaquant le plus proche de la Ligue nationale, toi, tu as dit Hanneman. Pour moi, je pense que c'est Beck.
C'est qui?
C'est Beck, Owen Beck.
Oui, Owen Beck, oui, c'est deux joueurs différents.
Oui.
Moi, Owen Beck, je le vois pas être un top 6, peut-être un joueur de centre de troisième trio. Faut qu'il soit capable. Moi, j'aurais aimé ça qu'il se démarque un petit peu plus du côté offensif, qu'il
ait
un meilleur contrôle de la rondelle, qu'il fasse plus de jeux, qu'il soit plus impliqué dans... Moi, je l'ai... Il ne m'a pas assez sauté aux yeux pour que je te dise ce gars-là est proche de la Ligue nationale. Certainement une année ou deux dans la Ligue américaine. J'ai des doutes qu'il soit capable de s'implanter comme un joueur régulier, peut-être avec l'expérience puis le développement physique. Il y a des belles habiletés, mais moi, je le vois maximum joueur de troisième centre. Je le vois pas être capable de jouer sur un top 6 dans la Ligue nationale. C'est un gars qui avait un côté offensif dans le junior. Il va peut-être falloir qu'il regarde un petit peu, de changer son style de jeu pour être capable de s'implanter puis avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale.
Ouais.
Messer, pour moi, est correct.
Il doit se réveiller là, à un moment donné, là, Messer. Ouais. Là, ça commence. Je dis pas, on commence à manquer de temps là, parce qu'il est encore jeune, là, mais tu sais, à un moment donné, dans la vie, là, les opportunités, il faut les saisir.
Il y a beaucoup de monde qui sont devant lui. Même si ça a été un choix de première ronde, moi, je pense que ça va lui donner une ou deux chances de plus d'avoir l'opportunité de jouer là, pour le Canadien un jour, peut-être.
Ouais.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de FU attitude dans sa game.
C'est comme il
fait ce qu'il a à faire, mais il va pas trop devant de la rondelle. Il n'est pas le premier sur la rondelle souvent. Côté offensif qu'on n'a pas vu encore. Donc, c'est un autre joueur qu'il faudra qu'il se développe à la dure dans la Ligue américaine. Mais moi, je commence à avoir beaucoup de points d'interrogation dans son cas.
OK, moi, je veux dire quelque chose sur Beck, là, je t'ai entendu, puis moi, je veux dire ça. Moi, je te dis pas que Beck va faire l'équipe cette saison, parce qu'honnêtement, je ne pense pas. On va voir au camp d'entraînement, parce que je pense qu'il va avoir une chance réelle. Mais quand le Canadien est prêt à être vraiment une équipe très, très compétitive, moi, je pense que dans le futur, Beck va avoir le rôle de Jake Evans sur le quatrième trio. C'est lui qui va être le centre du quatrième trio. Comme toi, je ne pense pas qu'il pourrait rentrer comme deuxième joueur de centre.
Non.
Peut-être troisième, mais je pense que le quatrième est beaucoup plus réaliste parce que je trouve qu'il y a une attaque assez limitée, mais on va voir. Écoute, Martin Saint-Louis, plus tôt ce matin, on lui a demandé si Roger Grillo va être sur le banc avec lui. Il a dit non. Puis il a dit, Il dit, écoute, il dit, quand Alex Burrows a décidé de prendre un autre job dans l'organisation, il dit, je me suis demandé si j'avais besoin d'un entraîneur pour être avec moi, pour aider l'avantage numérique, parce que, dis-moi, j'ai aidé beaucoup Alex l'année passée avec l'avantage numérique, puis j'ai décidé que la réponse est non, parce que je veux prendre la responsabilité de l'avantage numérique. C'est moi qui veux le faire. Donc, Roger Grillo, il va être là, il va être une extension de notre staff, il va nous aider, mais il serait pas sur le banc avec moi. J'aimerais avoir tes impressions, puis moi, j'ai dit plus tôt dans l'émission, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette réponse-là, c'est que l'an passé, on savait pas c'était quoi la responsabilité de Saint-Louis dans tout ça. Donc, si l'avantage numérique était la plus pire ou la deuxième plus pire, beaucoup de pression allait sur les épaules d'Alex Burrows. Là, Saint-Louis vient nous dire, là, c'est son bébé à lui. Si l'avantage numérique ne fonctionne pas, lui, il prend toute la pression sur ses épaules. Je te demande, toi, Eric, penses-tu qu'il avait vraiment besoin de ça?
Ben, lui, il aime ça, Martin. Il en a vécu toute sa carrière comme joueur. Il a dépassé les attentes. Là, il y met la pression sur ses épaules. Puis il veut l'apprendre, puis il est confiant d'être capable d'améliorer l'avantage numérique. Puis il est aussi bien de le dire en partant et puis de prendre cette pression-là sur les épaules qu'amener un entraîneur où ce que lui n'aura pas la liberté, puis Martin va toujours être au-dessus de son épaule. Tu sais, moi, quand je donnais des responsabilités à mes assistants, que ce soit le avantage numérique ou l'avantage numérique, je leur faisais confiance à 100%. Est-ce que je jasais avec eux autres quand les choses allaient moins bien ou je leur demandais ce qu'ils faisaient? Bien sûr, on en jasait en groupe. Mais là, Martin va vraiment s'impliquer à ça. Et moi, le danger que je vois dans ça, c'est si le Canadien n'a pas de succès, vu que c'est Martin qui doit gérer ça puis qui veut l'avoir sur ses épaules, faut pas qu'il délaisse les autres aspects du jeu puis les autres choses qu'un entraîneur-chef doit s'occuper. Moi, c'est la seule chose que je vois qui peut être un petit peu plus problématique, parce que t'en as en maudit des responsabilités comme entraîneur-chef. De rajouter l'avantage numérique, des fois, va faire que tu vas délaisser d'autres aspects. Parce que moi, là, j'étais perfectionniste, puis je voulais que mes special teams, ils marchent.
Ouais.
L'avantage, le désavantage numérique. Puis si ça va pas bien, le problème que je vois, c'est que Martin va peut-être passer plus de temps parce qu'il va vouloir que ça fonctionne en délaissant d'autres choses. C'est là qu'est le danger.
Oui, Eric, si on peut, en 30 secondes, un petit commentaire sur Kent Hughes qui dit, on lui a posé la question, le manque d'expérience en arrière du banc. Il dit qu'il pense pas que l'expérience est aussi importante aujourd'hui dans le coaching que ça l'a déjà été. Et Jeff Gorton qui a vu que si le Canadien veut être vraiment dans le mix, il faut vraiment améliorer le jeu défensif. Ton commentaire là-dessus?
Moi, j'en ai parlé la semaine passée où je disais que le jeu dans la zone du Canadien était un des pires que j'ai vu dans la Ligue nationale l'année passée.
Wow.
L'homme à homme, pour moi, n'est pas le bon système de jeu. J'ai hâte de voir, puis j'espère qu'on va l'ajuster, parce que le Canadien ne peut pas continuer à jouer de cette façon-là, donner des grade A chances tout le temps en ayant un homme à homme. C'est plus difficile le conditionnement physique. Moi, je pense qu'il y a le hybride où ce que les Bruins de Boston le jouent très bien. C'est la chose que le Canadien doit améliorer le plus. Puis on l'a vu avec Courtin. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué que défensivement, certaines soirées, c'est très difficile.
Merci beaucoup, Eric.
Merci, Tony. À vendredi.
OK, à vendredi. Georges Larac est là, de Larac Gonzalez. Georges, pour ceux qui rêvaient à Sidney Crosby avec le Canadien, il a signé une prolongation de contrat de 2 ans avec les Penguins de Pittsburgh. 8,7 millions, dont évidemment eux autres, ils ont pris une décision il y a quelques années de ça, quand ils avaient donné le contrat de la prolongation à Malkin et à Christopher Letang, qu'ils allaient aller le tout pour le tout. Et là, ils doivent continuer d'y aller pour essayer le tout pour le tout.
Allez chercher Carlson. On s'entend-tu que quand t'es allé chercher Carlson,
oui,
t'as comme pas le choix d'aller le tout pour le tout.
Oui.
De toute façon, Sid, c'est lui qui décidait. Il voulait pas aller ailleurs, on le savait déjà.
Je ne pense pas que c'est une bonne décision, par contre, de prolonger Malkin puis le temps quand ils l'ont fait.
Je suis d'accord avec toi.
Parce
mais...
qu'ils auraient fait, ils auraient dû faire une reconstruction.
Oui.
Évidemment, il manque pas de sujet aujourd'hui. Tu vas parler de quoi avec Gonzo?
J'ai écouté les deux games en fin de semaine.
Oui.
Fait qu'on va parler beaucoup de ça, parce que on s'entend-tu que dans le tournoi de golf, c'est pas les quotes les plus croustillantes qu'on va faire pendant 3 heures qu'on va parler.
Sans nommer de nom, est-ce qu'il y en a un pour toi qui s'est le plus distingué?
Ben oui.
Ben oui. Non, t'as pas besoin de nommer de nom. Non, parce que... Nomme-le pas, parce que pour le savoir, les gens doivent écouter et regarder Larac Gonzalez. Vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube à BPM Sport.
Mais je veux dire que tu vas être content.
Moi, je vais être content?
Ouais.
Tony est toujours content.
Vois-tu, y a-tu un Italien qui a joué en fin de semaine? Lara Gonzalez, ça va être encore une fois émission spéciale sur le Canadien de Montréal, parce qu'évidemment, plus tôt ce matin, le tournoi annuel de golf des Canadiens au club de golf Laval sur le lac, puis on avait plusieurs personnes qui étaient là. FX était là, Martin Lemay était là, même notre DG Alex Panton était là, puis en passant, Mike Matheson dans le retour des sportifs avec Martin Lemay. Plus tard aujourd'hui, ici à BPM Sport.
Là, c'est le temps de sprayer tes cheveux.
Sprayer mes cheveux, je spray et I'm out. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et nous regarder sur YouTube, bpmsport.ca, l'application mobile de BPM Sport, 91.9 FM à Montréal. Évidemment, on dit allô et bonjour à nos amis de Gatineau, 96.5 et à nos amis à Québec, 100.9 FM. Merci Alex Lanto, Larek Gonzalez s'en vient à BPM Sport.